En 2019, la Fondation Verte Européenne crée une charte pour la ville intelligente afin d'évaluer et de piloter les informations technologiques dans les villes. Avec le soutien de ses fondations partenaires Wetenschappelijk Bureau Groenlinks des Pays-Bas, le Green Economic Institute au Royaume-Uni et l'Institute for Active Citizenship de République Tchèque. Qu'est-ce qu'une Smart City ? Et pourquoi une coordination internationale est-elle fondamentale dans le développement de celle-ci ? Etopia a voulu y voir plus clair pour contribuer à la réflexion tout en gardant un regard critique. Une grande conférence avec Véronica Cremasco, députée wallonne, Richard Wouters de Groenlinks, Bernard Dubuisson, échevin écolo à Profondville, Karina Basile du Smart City Institute, Isabelle Rawar de l'Agence numérique. Le débat est animé par Quentin Lubussy, conseiller communal vert ardent à Liège, et vous êtes le vendredi 28 août 2020 à la salle Francisco Ferrer de la Cité Miroir.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre ici à Liège, à la Cité Miroir, dans la salle Francisco Ferrer, à l'occasion de Verpop. Verpop qui sont la nouvelle mouture depuis des années maintenant des rencontres écologiques d'été organisées par Etopia. Le sujet du jour, vous en avez déjà entendu parler, que vous soyez ici dans la salle, ce dont je vous remercie, ou derrière vos écrans, c'est un projet de charte européenne pour les Smart City Institute. Je vais commencer par remercier les intervenants de s'être déplacés, préciser qu'ils ont enlevé leur masque une fois qu'ils ont été mis en place, mais pour qu'on puisse bien les entendre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on est ici dans le cadre d'un débat qui n'a pas pour but de convaincre, mais d'expliquer et d'explorer les possibles souhaitables, les possibles qu'on a envie de voir émerger en croisant les points de vue avec nos différents intervenants et intervenants. On a la chance d'avoir un panel qui est paritaire, ce qui me fait très plaisir. Véronica Cremasco, ingénieure architecte de formation, anciennement chercheuse, qui est parlementaire wallonne et qui préside la commission du ministre Borsu en charge du numérique en Wallonie. Bernard Dubuisson, qui est échevin écolo à Profondville, qui nous fera les retours du terrain. Karina Basile du Smart City Institute de HEC, la Haute École de Commerce rattachée à l'Université de Liège. Richard Wouters, qui a été le rédacteur principal, l'ensemblier et initiateur de cette charte européenne. Il va nous expliquer la genèse pour les Smart Cities, ainsi que Isabelle Remacle de Rawar. Un petit moment de déconcentration, qui est à la manœuvre en Wallonie, pour l'agenda, l'agence du numérique. Je vous invite à compléter cette présentation. Je ne suis pas votre agiographe, mais au moins que chacun puisse savoir où on va. Bah, pour commencer et entrer directement dans le vif du sujet, Richard, vous venez ici présenter et mettre en débat, je vous remercie, un projet de charte européenne des Smart Cities. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, d'une part sur la genèse du projet et sur son contenu ?
Merci Quentin, merci Etopia pour cette occasion de dépoussiérer mon français. Voilà, la charte pour la ville intelligente que j'ai rédigée pour la Fondation Verte Européenne, avec l'aide de beaucoup d'académiques élus, représentants de ONG un peu partout en Europe, pour aider les élus locaux, les activistes locaux à juger les innovations technologiques dans leur commune, à être capable de passer un jugement informé sur les nouveaux projets technologiques. Parce que partout en Europe, des communes veulent devenir des smart cities, des championnes des mégadonnées et des technologies de l'information intelligente. Mais une ville intelligente n'est pas nécessairement une ville juste, verte ou sage. Les responsables politiques locaux doivent être conscients des valeurs publiques qui sont en jeu lorsque de nouvelles technologies sont introduites. S'ils négligent ces valeurs, ils risquent de se retrouver avec des résultats inattendus ou non désirés. Je vais donner quelques exemples. Et la plupart de ces exemples sont mentionnés dans notre charte aussi. Fix My Street, c'est une app qui permet aux citoyens de signaler à leur commune les défauts de voirie, les dépôts de déchets clandestins ou les graffitis. Cette app est utilisée à Bruxelles et à d'autres villes aussi. Toutes les notifications sont visualisées sur un site web public et on constate une grande différence dans le nombre de notifications entre Molenbeek et Ixelles. Quelqu'un peut-être a une explication pour ça.
Si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mentionner, je le relayerai. Jacques, le nombre de personnes connectées
Oui, ça joue définitivement un rôle. Ouais. Molenbeek, c'est un quartier défavorisé avec de nombreuses minorités ethniques. Ixelles, c'est un quartier à la mode. Beaucoup d'étudiants, plus connectés probablement. Beaucoup de fonctionnaires européens, très connectés aussi. Alors, en moyenne, je pense qu'on peut dire que les habitants d'Ixelles ont plus de compétences numériques que les habitants de Molenbeek. Alors, que se passerait-il si les décisions relatives à l'entretien de l'espace public étaient automatisées, fondées uniquement sur les notifications effectuées via l'app? Les quartiers riches seraient mieux nettoyés et entretenus que les quartiers pauvres. Alors, l'efficacité des solutions intelligentes peut entraîner des discriminations et des inégalités. J'ai vu d'ailleurs que Liège a une app aussi pour l'entretien des espaces publics, Plus belle la ville, qui fait partie de l'app Liège en poche. Plus belle la ville n'inclut pas une carte comme ça qui visualise les notifications, mais il serait intéressant de savoir s'il y a à Liège aussi cette inégalité entre quartiers riches et quartiers pauvres. Caméra de reconnaissance faciale. Ici, on voit qu'elles sont déjà utilisées dans les rues de Londres par la police. Des caméras qui sont connectées à un logiciel de reconnaissance faciale en direct et à une base de données des photos numériques. Ce système peut aider la police à identifier et arrêter les criminels recherchés. En Belgique, la police fédérale souhaiterait utiliser de telles caméras aussi à l'aéroport de Zaventem, si j'ai bien compris. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer qu'il y a un conflit de valeurs là entre sécurité et vie privée. Mais si vous êtes noir, par exemple, c'est peut-être plus compliqué encore. Il est possible que vous ne vous sentirez pas très en sécurité avec des caméras comme ça. Le logiciel actuel de reconnaissance faciale a un parti pris discriminatoire. Les personnes de couleur ont plus de chances d'être signalées par erreur que les autres personnes. Il faut tenir compte de ça. La mobilité en tant que service, ça pourrait être l'avenir du transport de personnes. Il s'agit d'apps qui offrent aux voyageurs un voyage personnalisé de porte à porte en utilisant différents modes de transport. Train, tram, bus, taxi, vélo partagé, etc. À Helsinki, en Finlande, l'app Vim a contribué à réduire le nombre de trajets en voiture. Vim est également utilisé à Anvers. Mais les apps comme Vim demandent la permission de suivre votre smartphone en permanence. En outre, elles aimeraient avoir accès à votre calendrier numérique afin de savoir à l'avance où vous voulez aller. Ce qui soulève des questions pour l'avenir, des questions sur la vie privée. Par exemple, les personnes qui veulent protéger leur vie privée pourront-elles encore utiliser les transports publics, les vélos partagés, etc., si Mobility as a Service devient le futur. Next slide, please. Télésurveillance. Vous voyez ici une personne âgée devant son frigo. Et ce frigo peut être une partie d'un système de capteurs qui détecte les anomalies dans, dans le comportement des personnes âgées qui habitent seules. L'idée, c'est que ces détecteurs surveillent leur bien-être. Alors, en cas d'anomalie, si la porte du frigo est ouverte trop longtemps, par exemple, ce système de télésurveillance envoie un avertissement à un aidant. Mais il y a des personnes âgées qui laissent la porte de leur frigo délibérément ouverte trop longtemps, juste pour recevoir un coup de fil d'une personne aidante. Ce qui montre que le système ne permet pas toujours aux aidants de gagner du temps. Les solutions technologiques dans le secteur des soins négligent souvent le fait que la maladie et le déclin mental sont des phénomènes sociaux. Les personnes très âgées veulent communiquer, veulent de la compagnie, veulent obtenir des conseils des personnes humaines. C'est pourquoi des techno-fixes comme la domotique et la télésurveillance ne sont pas aussi efficaces que les ingénieurs et les managers le pensent. Réseau électrique intelligente. Voici une photo qui a été prise lors d'un webinaire que nous avons organisé sur les smart grids. Les smart grids vont jouer un rôle important pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité verte, mais il est important de ne pas oublier les utilisateurs. Dans un smart grid expérimental à Amsterdam, les ménages étaient équipés de batteries pour stocker le courant de leurs panneaux solaires, mais ils n'avaient aucun contrôle sur les batteries. Un opérateur anonyme utilisait les batteries pour le négoce sur le marché d'électricité. Les gens pouvaient voir la batterie dans leur maison, chauffer, pouvaient voir les lumières clignoter, mais ils ne savaient pas pourquoi. Si vous voulez que les gens utilisent l'énergie de manière intelligente dans un réseau intelligent, vous devez leur donner un certain niveau de contrôle sur les algorithmes qui pilotent leurs appareils. Il faut aussi leur donner le contrôle de leurs données personnelles. Sinon, ils risquent de se retirer du smart grid et de débrancher leur batterie, ce qui est effectivement passé à Amsterdam. C'est sur les algorithmes prédictifs. L'exemple vient de la ville anglaise de Bristol, où 25% de la population a déjà été analysée par un algorithme municipal. Cet algorithme utilise 35 ensembles de données personnelles pour attribuer des scores de risque à tous les enfants et adolescents. Chacun obtient un score de risque entre 0 et 100. Et le score prédit le risque qu'un individu soit victime d'abus. Plus les caractéristiques d'un jeune correspondent aux caractéristiques des victimes précédentes, plus son score de risque est élevé. Et le conseil municipal de Bristol veut utiliser le système aussi pour prédire les comportements criminels ou l'abus de drogue. Ça soulève pas mal de questions, bien sûr, telles que la confiance dans le gouvernement est-elle ébranlée si chaque contact que vous avez avec le gouvernement peut conduire à un score de risque plus élevé pour vous ou pour votre enfant? Est-il acceptable de donner un score de risque à une personne parce qu'elle correspond à un certain profil, au lieu de la juger individuellement? Les gens ont-ils le droit de savoir quel est leur score de risque ou celui de leurs enfants? Et enfin, surtout, ces analyses basées sur des mégadonnées sont-elles compatibles avec le droit à la vie privée? Alors, les élus locaux ne devraient pas se laisser séduire par les promesses de big data, des data-driven policies. Si les échevins ou les fonctionnaires utilisent ces mots, il est temps de poser des questions critiques. On peut se demander ce que l'avenir nous réserve une fois que les scores de risque seront combinés aux données des caméras de reconnaissance faciale en direct. Parce qu'avec ces deux éléments, les scores et les caméras, on dispose déjà de deux composantes essentielles du système de crédit social en Chine. Est-ce que c'est l'avenir que nous voulons? À ce stade de ma présentation, j'aimerais connaître votre avis. Levez la main si vous préférez vivre dans une ville stupide. Ah oui, c'est moins c'est la moitié.
Vous êtes quand même quelques-uns, effectivement. Oui.
Ok, je ne voulais pas vous décourager. Une ville intelligente ne doit pas nécessairement être une ville dystopique, de surveillance de masse, de déshumanisation, d'inégalité. Mais nous devons réaliser que des valeurs importantes sont en jeu. Les responsables politiques locaux doivent discuter des valeurs qu'ils veulent voir protégées et promues par la technologie. Vous voyez quelques valeurs qui ont été importantes pour nous quand on a rédigé cette charte pour la ville intelligente. Démocratie, connexité, dignité humaine, vie privée, développement durable, égalité. Il y a d'autres valeurs. Chaque commune doit définir la valeur qu'elle veut protéger ou promouvoir par la technologie. Et ces valeurs, ces nouvelles technologies doivent faire l'objet d'un débat public et d'un contrôle démocratique. D'autant plus qu'il peut y avoir des conflits de valeurs, comme nous avons vu dans les exemples. C'est pour cela que nous avons élaboré la charte pour la ville intelligente à travers une série de tables rondes dans plusieurs pays en Europe. La charte a été publiée en 5 langues. Elle vise alors à aider les responsables politiques et les militants locaux à porter un jugement moral informé sur les innovations technologiques dans leur commune. La charte contient 18 principes accompagnés d'explications. Je ne vais pas vous montrer tous les principes. Ici, il y en a un. Il s'agit du droit à un contact humain significatif. À l'ère des robots, ça devrait devenir un nouveau droit humain, à mon avis. La charte contient également quelques exemples intéressants. Ici, il s'agit d'une app gratuite qui vous permet de trouver les toilettes publiques les plus proches au Danemark. Cette app a été développée par une femme qui souffre elle-même d'incontinence urinaire. Elle a pu créer cette app en utilisant des données ouvertes fournies par les communes. Ce qui montre qu'il est important que les communes aient des portails open data, avec des données non personnelles, bien sûr, que les autres, comme cette femme danoise, peuvent utiliser pour développer de nouveaux services, outils, etc. Cet exemple vient d'Amsterdam. Amsterdam développe actuellement une méthode pour évaluer les algorithmes qui sont utilisés dans la ville afin de détecter les effets néfastes comme la discrimination. Amsterdam veut tester à la fois les algorithmes que la ville utilise elle-même, mais aussi les algorithmes utilisés par les entreprises, par exemple les algorithmes qui sélectionnent des candidats en emploi. C'est un exemple à suivre, il me semble. Un dernier exemple vient de Catalogne, où les citoyens ont créé une coopérative pour le partage des voitures électriques. Ça montre que la technologie peut contribuer aussi à la création de nouveaux biens communs urbains. Il est important de se réaliser pour les élus locaux aussi que ces initiatives, c'est coopératives. Ils ont besoin souvent du soutien des autorités locales pour démarrer. Comme j'ai dit, la charte pour la ville intelligente est disponible en 5 langues sur ce site de la Fondation verte européenne. Et il y a aussi une version qui est complètement en ligne, une version anglaise, qui est toujours en cours d'actualisation. Alors, si vous avez des commentaires ou si vous connaissez des exemples de bonnes utilisations de technologies dans les villes ou dans les villages, vous pouvez entrer cette information sur ce site et vous pouvez le faire en français, bien sûr. Merci pour votre attention.
Merci Richard pour cette présentation, d'une part de la genèse de la charte elle-même, de la charte et de ses points d'attention, les 10 actions intelligentes, les objectifs en termes de démocratie, de valeur, quelque chose qui ressort très souvent. J'ai envie de passer la parole à Karina du HEC Smart City Institute. On se pose une question qui reste dans le débat public pour toute personne qui s'intéresse aux enjeux qui ont été rappelés par Richard. C'est, au fond, qu'est-ce qu'une smart city ? Est-ce qu'il y a une définition, une et indivisible, ou est-ce que ça va au-delà de ça ?
Alors, peut-être avant de donner cette définition, enfin, notre définition, parce qu'on verra qu'il n'y en a pas qu'une seule, expliquer en deux mots qui nous sommes. Donc, le Smart City Institute, on est un institut académique qui fait partie d'HEC Liège au sein de l'Université de Liège. Et on mène des réflexions sur tout ce qui est territoire durable et intelligent, avec cette spécificité qu'on aborde cette problématique d'un point de vue managérial. Donc, on n'est pas des techniciens au sens premier du terme. Et que pour ce faire, on travaille sur trois piliers. Le premier pilier, c'est de la recherche, recherche fondamentale et recherche appliquée, avec des publications. On fait aussi de la formation, formation initiée donc pour les étudiants en deuxième master à HEC, et des formations aussi continuées, formation en management des smart cities, justement. Et on fait aussi de la sensibilisation, donc des workshops et autres animations. Et donc, pour revenir sur votre question, et c'est ce qui rend un petit peu le débat complexe et ce qui est difficile pour les personnes de comprendre, c'est qu'il n'y a pas une seule et même définition. Donc, il n'y a pas un consensus unanime sur ce qu'on entend par une smart cities. Et c'est ça qui est compliqué, parce que certains vont mettre en avant le côté technologique. On associe souvent la smart cities au côté technologique. Et donc, nous, on essaye de retirer ce vocable de smart cities, mais parler plutôt de territoire durable et intelligent. Et évidemment, il y a plein de chercheurs qui ont travaillé, qui ont fait des recherches sur des modèles. Certains mettent en avant la technologie, certains mettent en avant plus le caractère humain, certaines villes mettent plus en avant le caractère de la gouvernance. Et nous, au Smart City Institute, c'est évidemment personnel, notre vision de la chose, c'est qu'il faut y inclure une dimension différente, enfin une autre dimension qui est une transition vers plus de durabilité et plus d'intelligence. Et donc, notre définition à nous, c'est vraiment un écosystème de parties prenantes. Et donc, l'écosystème, c'est vous, c'est moi, ce sont les universités, les entreprises, les communes, qui sont engagées vers une transition durable qui va utiliser donc la technologie comme facilitateur pour atteindre ces objectifs de durabilité. Et donc, j'insiste ici, la technologie, c'est vraiment pas une fin en soi, c'est vraiment un moyen. Et donc, c'est pour un petit peu désamorcer tout ce débat sur la ville intelligente. C'est la ville qui est forcément technologique. Oui, elle utilise la technologie quand c'est nécessaire et quand elle permet d'améliorer la qualité de vie du citoyen. Parce qu'une ville intelligente, au final, c'est ça. C'est une ville où il fait bon vivre. C'est une ville où la qualité de vie du citoyen est améliorée.
Donc, c'est la technologie au service de valeurs ou de services, mais pas la technologie en tant que telle, l'objectif final.
Exactement. Donc, l'essentiel dans une ville intelligente, c'est qu'on va partir des besoins. Il ne s'agit pas à un moment donné de se dire, voilà, il y a une application qui est à la mode, on va la mettre en œuvre. Non, si elle ne répond à aucun besoin, l'objectif, ce n'est pas de créer un besoin. C'est vraiment de se dire, on fait un état des lieux de ce qui se passe sur notre territoire. quels sont les besoins des territoires et comment on peut y remédier, comment on peut répondre à ces besoins et comment répondre à ce défi. Et si une technologie est là pour y répondre, tant mieux. Alors on l'utilise parce qu'elle va améliorer la qualité de vie. Mais il ne faut pas créer un besoin pour utiliser la technologie.
Ok, merci. Isabelle, Madame Ravoir.
Oui, je voulais tout d'abord réagir un petit peu par rapport à la présentation de Richard pour dire que un petit peu dommage que la question « Voulez-vous vivre dans une ville stupide ou intelligente ?» soit posée après avoir insisté sur les travers possibles de la Smart City. C'est très bien, évidemment, d'avoir la charte qui va insister sur les différents points qu'il est nécessaire d'avoir en tête en termes de gouvernance, mais il faut bien sûr ne pas oublier que la Smart City, c'est juste un concept qui traduit une évolution inévitable et qu'on ne stoppera pas de la société même en tant que telle. Et que la Smart City, la ville intelligente, peu importe le terme qu'on donne, de toute façon, c'est toujours dans un but de servir au bien-être citoyen, de partir de ses besoins et d'améliorer tous les services qui lui sont proposés pour aller vers cette évolution durable. Il est illusoire de croire qu'on doit opposer la gouvernance politique avec les préoccupations citoyennes et avec les réalités des entreprises. C'est un ensemble d'acteurs qui doivent vraiment agir ensemble de manière coordonnée, chacun dans ce qu'il peut faire de mieux et aussi pour combler ses lacunes. Parce que l'un sans l'autre, ça n'existe pas. Je voulais aussi faire une remarque par rapport à la donnée. En effet, c'est dangereux par rapport à la gouvernance de la donnée prédictive, mais Richard l'a dit aussi, l'ouverture de la donnée est indispensable pour faire participer le citoyen, pour créer de l'innovation dans l'entreprise et aussi pour aider le politique à prendre des décisions. Je pense notamment à l'aménagement du territoire. Quand on n'a pas de données qui nous permettent de connaître les réalités du terrain, on ne peut pas bien gouverner, bien anticiper. Ce qu'on vit en termes de Covid le montre également. Donc ça, pour nous, c'est important. Et j'ai encore une dernière remarque à faire par rapport à la présentation. La plupart des exemples qui ont été donnés par Richard ne vous parlent sans doute pas. Et je serai d'accord avec vous par rapport au fait que la plupart sont des capitales et des grandes villes, que nous vivons en région wallonne, où nous avons 262 communes de très petite taille, pour lesquelles il est illusoire de croire que les exemples qui ont été donnés seront un jour d'application. Ce pourquoi nous, en région wallonne, nous avons actuellement le vocable de territoire intelligent au sens de Smart Région, parce que la taille de notre région est équivalente à la taille d'une de ces villes. Et donc, nous aussi, on a développé une charte Smart Région, mais pour mettre en valeur peut-être un peu plus davantage les concepts qui permettent de se coordonner pour que le citoyen qui passe d'une ville à l'autre pour consommer, pour vivre, avoir ses loisirs, travailler, etc., ne soit pas confronté à de multiples téléchargements, usages, applications qui ne se parlent pas, etc. Et donc, nous, on met en avant les clés qui permettent réellement à la fois de s'y retrouver en tant que citoyen en termes de besoins, mais aussi que ce soit facile d'usage et cohérent sur l'ensemble de la région. Donc nous, on va parler d'interopérabilité de solutions, donc on va parler de l'importance de la couverture de la donnée, donc tous les termes d'ouverture aussi, de solutions, etc., pour essayer aussi de tirer les leçons du passé, parce qu'on sait d'où on part en termes de gouvernance, de participation citoyenne, les difficultés de nos PME, etc. Et donc pour nous, ça, c'est vraiment essentiel de comprendre qu'on essaie d'avoir cette cohérence avec toutes les communes. Et je crois que ça sera important que Profondeville, par exemple, on a des exemples très concrets. Parce qu'on a parlé jusqu'à présent du concept, c'est très important. Mais pour que vous compreniez bien, on reste attaché à des choses très concrètes. Et donc nous, on a souhaité aller vers ce qu'on appelle des appels à projets, parce qu'on a dit, ben voilà, il faut que le citoyen s'exprime et que les différents territoires, que ce soit les communes, etc., puissent vraiment venir avec des projets très concrets, souvent de petite taille, etc., du moment que ça correspond à des problématiques, des besoins que d'autres partagent, on se doit de le soutenir. Et donc ça, c'est très important de le comprendre et de ne pas opposer un type d'acteur par rapport à un autre. Il ne faut pas non plus oublier que l'enjeu de la Smart City, c'est faire en sorte qu'on ne vive pas dans un désert économique, social, écologique, etc., dans quelques années, parce que n'oubliez pas que les solutions technologiques actuellement sont dictées, imposées par des multinationales. Ce sont certainement des solutions que vous utilisez au quotidien, ne fût-ce que pour vous déplacer, vous utilisez certainement une solution de géolocalisation ou autre. Et donc l'idée, c'est bien de garder les compétences chez nous pour que nos enfants aient la possibilité de rester dans une région qui offre toujours des emplois, un bien-être, qui puisse aussi donc ne pas être un désert qui n'utilise pas la technologie et dans lequel tous les cerveaux seront partis. Parce que c'est ce à quoi on assiste aussi actuellement. On a assez peu de start-up qui proposent des services aux citoyens et il faut savoir les garder. Parce qu'on est dans un monde qui change. Comme l'a dit Carida, il n'y a pas une seule définition. Pourquoi ? Parce qu'il y a différentes réalités de territoire, différents besoins, etc. Et qu'il faut donc partir de ces différenciations d'une manière tout à fait cohérente. On est bien d'accord, mais avec toujours cette idée de faire en sorte de ne pas être des suiveurs ou des perdants et de permettre à nos enfants de bien vivre.
Vous venez de nous ramener au concret. On parlera tout à l'heure de la vision avec l'agence numérique. Mais peut-être alors allons directement dans le concret. Bernard, vous avez donc au niveau de Profondeville. Profondeville, c'est peut-être une commune wallonne typique, 12-13 000 habitants.
Disons que c'est une commune normale. Voilà. Ni grande ni petite. Peut-être un petit peu plus riche que la moyenne. Ni urbaine ni rurale, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est une commune où il fait bon vivre, comme dans beaucoup de communes de Wallonie, mais qui ne se distingue pas forcément dans un sens ou dans un autre.
Et donc, est-ce que Profondeville rêve de devenir une smart city La question est délibérément piquante. Si je puis dire.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs éléments par rapport à ça, et je pense que ça reflète un petit peu l'état d'esprit dans beaucoup de communes, c'est qu'en fait, il y a quand même des grands points d'interrogation autour de ces concepts-là, qui, aujourd'hui, sont encore loin d'être vraiment appropriés par les communes. Et je ne sais même pas si c'est un problème, en fait. Il y a effectivement, comme Isabelle Rawar le disait, une sorte d'injonction en disant « il ne faut pas rater le train ». Mais il faut encore savoir quel est le train, où il va, et c'est jamais très clair. Alors c'est évident que la technologie ou les nouveaux modèles, quelque part, de fonctionnement des organisations qui sont permis, rendus possibles par cette technologie, répondent à des vrais besoins. Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup... Il y a une hausse d'exigence par rapport aux communes qui est hyper importante. On en demande toujours plus aux communes. D'ailleurs, les communes s'en plaignent régulièrement en disant voilà, on ajoute toujours des choses dans le baluchon, mais on ne donne pas beaucoup de moyens. Effectivement, la technologie, elle peut être là pour rationaliser une série de choses et permettre à ressources plus ou moins égales d'en faire plus. Ça, c'est sûr. C'est aussi la question du rapport avec les citoyens. Le citoyen, aujourd'hui, il interagit au quotidien avec sa banque par voie électronique. Je dirais, 80% de la population, certainement. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas le faire de la même manière avec les pouvoirs publics et avec sa commune en particulier ? Donc ça, c'est de vraies questions, avec effectivement une vraie, quelque part, un vrai intérêt, une nécessité derrière. Mais derrière, il y a aussi, une taille, un type d'organisation qui est la commune, qui n'est vraiment pas, dans sa conception originelle, armée, préparée pour ça. Alors, effectivement, je pense que dans le privé, parfois de manière un peu violente socialement, on a compris le message et on fait évoluer les choses dans un certain sens, hein, donc c'est-à-dire une espèce de transition numérique où quelque part le service informatique est passé d'une fonction support à une fonction de stratégie, hein, si je résume un petit peu les choses, mais dans les communes, on est encore vraiment très loin d'avoir passé ce cap-là. Ça, c'est, donc on a parlé de l'intérêt, hein, et puis il y a une question de maîtrise. On ne comprend pas. En fait, on ne comprend pas ce que c'est. On nous parle de technologie, on est démarché par plein de sociétés qui nous promettent monts et merveilles. Et en fait, il y a une grande méfiance autour de ça, parce qu'en fait, on a vraiment peur de se faire avoir, de mettre les pieds dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quand bien même on en comprendrait l'intérêt et le besoin auquel ça peut répondre. Et donc il y a un vrai besoin, quelque part dans les communes, de se réinventer aussi autour des possibilités numériques. Et moi je suis assez préoccupé par ça, parce que je n'ai pas l'impression que les communes, elles sont en mesure de se réinventer. Voilà, on ne sent pas vraiment d'impulsion, on ne sait pas trop d'où doit venir l'impulsion d'ailleurs, et donc ça dépend vraiment très fort de ce qu'il y a dans la commune, dans l'administration communale. Est-ce que le directeur général ou la directrice générale est conscientisé? Est-ce qu'il y a un échevin qui connaît un petit peu les choses? Donc par exemple, à Profondeville, vous l'avez peut-être lu dans la presse, on a été élu, entre guillemets, Smart Village européen, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a répondu à un appel d'offres comme 800 communes européennes, et on a été sélectionné parmi 21 communes pour être accompagné pendant 2 ans. Mais en fait, c'est juste parce que dans notre commune, il y a un échevin qui a su écrire un dossier. Il y a même pas d'informaticien chez nous, voilà, hein, c'est la réalité. Et donc, je veux dire, voilà, je suis très content qu'on ait été sélectionné. Mais derrière, il y a rien de particulier qui est encore en place. Et donc, voilà, il va falloir construire. Je suis confiant, on va pouvoir faire des choses, mais ce sera de nouveau à petite échelle et sans vraiment opérer cette transition qui est nécessaire et qui, quelque part, rappelle un petit peu la transition écologique, parce que la transition écologique, elle est multiforme. Hein, la transition numérique, elle est multiforme, elle est complexe, elle demande quand même des compétences d'ingénierie ou d'autres que comme on est mortel, n'a certainement pas et qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on peut faire. Et donc, il y a un manque de prise. Et donc, pour ça, effectivement, il faut aussi inventer un modèle qui ne se limite pas à la commune et où les communes s'entraident. Et donc, il y a beaucoup de choses à réinventer, ouais, dans l'histoire. Et ça, et là, on n'a pas encore parlé de valeur.
On y viendra.
Alors, si je peux juste donner, parce qu'on a parlé de concret, juste donner un ou deux exemples de choses qu'on aimerait bien faire. Donc, il y a un exemple on n'est pas tout seul. On est aidé notamment par une intercommunale qui est le BEP, hein, dans la province de Namur, le Bureau économique de la province, qui nous a proposé un super chouette projet qui s'appelle les camions sentinelles. En fait, ça consiste à équiper les camions poubelles de capteurs, de racks qui permettent de plugger, de brancher des capteurs de diverses origines sur les camions poubelles qui, en fait, toutes les semaines, vont parcourir tout le territoire d'une commune. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, ici, le cas pilote, c'est on va mesurer l'intensité du réseau GSM et data via ces capteurs, ça veut dire que toutes les semaines, pour tout le territoire, on aura une mesure de l'intensité du signal et qui nous permet à la fois de mesurer où est-ce qu'il y a des zones blanches et aussi de mesurer dans le temps l'évolution de cette problématique. Voilà, ça c'est un exemple qui, je veux dire, ne coûte pas très cher, il fallait trouver l'idée, qui rend compte plein de valeurs de la charte et qui va donner vraiment une valeur ajoutée dans la manière dont un territoire peut être géré. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres. Après, voilà, il y a des choses qui sont un tout petit peu plus tarte à la crème, je dirais, comme la participation citoyenne, c'est-à-dire proposer à la population de réagir à des projets de l'administration communale via une plateforme plutôt que de participer à des réunions. Bon, ça peut être fait en complément, mais en tout cas d'instaurer une espèce de débat, de forum public, de participation à travers des outils en ligne. Ça, ce sont deux exemples, par exemple.
Ok, merci Bernard. On a parlé, on a fait un premier tour et Véronica, je vais venir vers toi parce qu'on a parlé de faire, de dystopie, de projet, mais ici, il y a bien un endroit où on pense, où on développe une vision, c'est au Parlement wallon, où les parlementaires se donnent ça pour mission. Tu présides la commission du ministre en charge du numérique. Ma question est la suivante, qu'on parle de smart territoire, smart cities ou smart village. Est-ce que c'est un enjeu qui est pris en charge, bien pris en charge, où il y a quelque chose qui se développe pour l'instant pour les 262 communes wallonnes?
Alors, tu fais bien, merci de l'introduire comme ça, de base. Mais, et le ministre en charge, dont j'ai la chance, donc il y a 7 commissions permanentes au Parlement wallon, dont une qui s'occupe de l'économie, de l'aménagement du territoire et du numérique, aussi de l'agriculture, etc. Donc ce sont des grosses compétences. Mais, et donc, c'est là, dans cette commission, dans une des 7 commissions permanentes du Parlement wallon, que devraient se discuter ces enjeux-là. Si tu veux mon point de vue aujourd'hui, et c'est très très gai, et encore merci à Etopia d'avoir invité ce panel-ci, parce que je pense que la discussion doit avoir lieu, et c'est important d'avoir Madame Ravard, d'avoir Karine, le Smart Institute aussi, d'avoir une commune, et d'avoir cette vision européenne. Pour moi, trop peu, pour répondre directement à ta question, trop peu sur le fond des valeurs. Parce qu'effectivement, il y a un vrai enjeu sur l'étiquette numérique, il ne faut pas rater le train. Et tout à fait, quand on vient et on représente l'agence du numérique, et Isabelle a tout à fait raison de le faire, il ne faut pas louper l'enjeu. Maintenant, l'enjeu en tant que tel, ce n'est pas un objectif. Et donc, être numérique, être intelligent, et je vais aller, Bernard, jusqu'à un petit peu titiller le débat, mesurer les zones blanches, les zones qui ne sont pas couvertes par la 5G, etc., ce n'est pas un objectif en tant que tel. Et ça n'a rien de smart, c'est numérique. Le smart... Et pour faire un petit feedback, moi je suis ingénieur de recherche, j'étais ingénieur de recherche pendant 15 ans sur le développement durable des villes, au niveau, j'ai travaillé beaucoup avec les communes au niveau wallon, au niveau européen, sur tout ce qui est urban knowledge, etc. Comment est-ce qu'on fait une intelligence? C'est ça qu'il y a derrière le mot smart. Comment est-ce que cette ville et ces territoires deviennent malins dans le sens de l'épanouissement humain et du meilleur fonctionnement? Quand on mesure les zones blanches qui ne sont pas couvertes par un réseau, ça s'appelle de la logistique et de l'équipement. Quand on a fait ça, on n'a encore rien fait de smart. Et donc ça, et c'est en ça que vraiment, je suis très contente d'être là, on mesure la différence entre le Smart Institute qui a une valeur, et voilà, pour un peu connaître l'intérieur de l'Université de Liège et des milieux académiques, qui met de la valeur derrière ce développement-là, derrière un développement urbain qui est inspiré de ça, et la région qui est aux prises avec un sérieux retard, je vais dire ça comme ça, comme je le pense, en se disant, ouais, faut pas qu'on loupe le train, mais comment est-ce qu'on va faire pour intégrer ces valeurs-là? Et quelque part, la charte arrive en disant, attention, je veux dire, le socle de tout ce que vous allez développer, c'est un socle de débat public, de valeurs. Qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on a couvert le territoire, oui, ben ok, et alors? Je veux dire, c'est quoi la valeur sociétale qu'il y a derrière? C'est quoi la valeur publique qu'il y a derrière? Et quand tu disais, est-ce que c'est discuté à ce stade assez au niveau du Parlement wallon et dans la commission qui est en charge du numérique et de l'économie et de l'aménagement du territoire, donc ça croise, bien sûr que non. À l'heure actuelle, sur le fond, pas assez. C'est ça qu'il faut stimuler. Et l'Agence du développement numérique, et je trouve que Isabelle Ravard, dans son propos, montre bien à quel point il ne faut pas louper le train. Mais à quel point aussi, et je sais pour m'être un peu entretenue avec elle, qu'elle est demandeuse d'aller évidemment plus loin vers des valeurs autres, et que c'est très compliqué, parce que Profonde Ville, bien que ce soit une commune moyenne de Wallonie, n'est qu'une des 262 communes, et encore, elle n'est pas si moyenne que ça, parce qu'elle est déjà un petit peu dans le train, et qu'il y a tous les autres, quoi, et qu'il faut créer une intelligence autour de ça, et une intelligence qui, pour moi, bon, évidemment, c'est pas... pas une grande révélation que je sois particulièrement sensible à la charte qui a été développée par la Green European Foundation. Évidemment, mes valeurs s'y retrouvent. C'est pas un scoop. Mais néanmoins, il faut absolument que ces valeurs-là soient discutées. Qu'est-ce qu'on fait de ces développements numériques? Et aujourd'hui, après la crise du Covid, quand ça a été aigu comme ça l'a été par rapport aux personnes âgées, par exemple. Donc, moi, j'ai travaillé beaucoup sur le développement du territoire et notamment sur l'enjeu démographique et l'enjeu des personnes âgées au niveau du territoire, sur leur répartition, sur la fameuse répartition de toutes ces maisons de repos. Est-ce qu'on met tout le monde au même endroit et qu'on en arrive à développer des technologies en disant « c'est pas grave, on va faire des robots pour aider les gens chez eux et que les frigos restent ouverts ». À un moment, il faut se poser la question. Ça n'a rien de smart. Hein. Ça s'appelle un outil numérique contemporain qu'on utilise. Ce qu'on en fait, il n'est pas assez débattu. Je pense que cette charte est vraiment très, très intéressante à ce niveau-là. Il n'est pas assez débattu au niveau de la région Wallonne. Il faut absolument tirer le truc vers le haut et revenir sur qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi, au-delà de... il faut évidemment pas se laisser complètement avoir pieds et poings liés par des multinationales qui arrivent avec leur appli toute faite. Et là, l'agence du numérique et la Smart Région fait la première base de la base. Il faut simplement pas se laisser, truster ou spoiler de certes. Enfin oui, beaucoup d'anglicisme. Hein. Se laisser accaparer des données qui sont les nôtres et peut-être rester dans des cahiers des charges et dans des marchés publics qui finalement nous rendent complètement captifs de quelques développeurs. Et ça, l'agence du numérique wallon, la Wallonie, Madame Ravart, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens du bord en disant bon, d'abord on va régler ça. Mais il faut absolument revenir vers la charte, vers le Smart Institute, en disant quelle est la valeur de fond. On ne peut pas rester à ce niveau-là. Et j'ai quand même envie de dire qu'il est temps que le débat se passe. Quand on parle des personnes âgées, quand on voit à quel point c'est aigu en région Wallonne, c'est pas un petit débat. Et je veux dire, il est temps qu'on s'en saisisse. Et dernière petite intervention en tant que présidente de cette fameuse commission qui s'occupe du numérique, de l'économie et de l'aménagement du territoire, sur le fond... Vous allez me dire, aujourd'hui, la législature n'a commencé que depuis un an. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres gros dossiers à gérer. Mais sur le fond, le débat n'a pas encore eu lieu. En tout cas, le débat parlementaire n'a pas encore eu lieu. Et donc, tout ça pour dire que j'étais vraiment contente d'être ici.
Oui, mais donc, c'est vrai qu'on peut passer des heures parce que, comme vous le remarquez, on est en train de réfléchir à ce qu'on veut pour notre futur. Donc, moi, je vais rebondir aussi sur ce que Véronique a dit.
C'était la question que j'avais envie de vous poser, la vision.
Oui,
vous y venez toute seule, c'est parfait.
En fait, donc, on remet vraiment la patate chose aux politiques, nous les premiers aussi, en disant il faut une vision pour chacune de vos compétences. Et ça rejoint donc par rapport à ce que Véronique disait sur le retard. Parfois, je me dis, c'est pas plus mal. En fait, retard n'est pas forcément péjoratif. C'est juste qu'il y a une conscientisation chez nous, justement, qu'on ne peut pas se tromper. Et donc, ce manque de vision, ce manque de débat, c'est aussi parce qu'il n'y a pas une maîtrise suffisante, mais il y a quand même une conscience des risques de se tromper. Je vais revenir sur le problème du manque de maturité. Donc, ça, c'est un point sur lequel on est tous d'accord, on en a discuté encore. Il y a réellement un problème de manque de formation, manque de sensibilisation encore, malheureusement, et manque d'accompagnement. On est un petit territoire et les experts, on se connaît, on est une vingtaine, une trentaine, on se rencontre tout le temps. Et pour couvrir tout le territoire, chacun a ses fonctions, c'est compliqué, on cherche de l'aide un peu partout. Et donc si on ne veut pas être totalement dépendant de privés qui ont leurs propres objectifs financiers à atteindre, on doit organiser à tout niveau public la possibilité de s'entraider. On essaie, mais ça prend trop du temps, certainement trop de temps, et il n'y a pas encore assez de moyens qui y sont consacrés. Et moi, je dis tout le temps, avant de penser par rapport au boulot, moi je pense en tant que mère de famille, en tant que consommatrice, en tant que femme, et réellement, posez-vous la question du plus jeune âge jusqu'à l'université, pédagogiquement, à tout niveau de pouvoir, qu'est-ce qui est organisé pour les enseignants, etc., de manière à ce que ces solutions puissent être débattues tant au niveau de la valeur qu'au niveau de leurs implications et de leur définition, de l'évolution, etc. Trop peu de choses. Donc je crois qu'on est tous responsables de qui on élit, c'est certain, mais aussi on doit pas s'imaginer qu'on est moins responsable qu'un autre de la société dans laquelle on est et du futur qu'on veut construire et qu'il faut oser s'exprimer à tout niveau et en priorité, à mon sens, sur l'enseignement, qu'il faut continuer à améliorer et à ne pas croire qu'il n'y a qu'une seule ou deux ou 10 personnes en fonction du morcellement qu'on vit dans ce pays qui sont responsables du futur qu'on est en train de construire pour nous et pour nos enfants. Ça, c'est une chose sur laquelle je voulais insister. L'autre chose par rapport à ce que Véronica a dit, c'est par rapport justement aux prestataires privés. Nous, ce qu'on a constaté, c'est évidemment que ce sur quoi tout le monde s'est précipité, c'est toujours la facilité, à savoir l'infrastructure, que ce soit au niveau donc télécom, au niveau capteur, au niveau caméra, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'une solution n'est smart que si à la fois on impose à cette infrastructure quelque chose qui peut permet de mieux la gérer, de gérer un territoire, de gérer au niveau des instances publiques. Et ça, ça demande des plateformes, de la donnée, etc. C'est une autre compétence que ceux qui s'occupent de l'infrastructure. Et ça demande aussi un lien avec l'utilisateur. Le citoyen, l'acheteur, le touriste, la personne âgée, en fonction donc de la solution. Généralement, on pense à des applications mobiles, ça peut être d'autres moyens d'interagir avec eux, mais là encore, ça demande d'autres compétences. Et donc, nous, chez nous, notre problème, c'est qu'on n'a pas des sociétés qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur d'une vraie solution smart. Et donc, ce sur quoi aussi on doit travailler, c'est être solidaire. Moi, je dis souvent, on nous compare par rapport à la Flandre. La Flandre a des richesses. Nous, on n'en a pas, mais on apprend à être solidaire. Quand on ne sait pas faire autrement, on apprend à se parler, à s'entraider. Et à tout niveau, il faut créer des partenariats pour pouvoir être efficace. Et donc, on essaie, avec les petites entreprises et même les plus grandes, de créer des vraies chaînes de valeur, mais c'est très compliqué. Ce qui a été dit, et j'insiste aussi, on doit reprendre la main. En tant que citoyen, en tant qu'instance publique, ça n'est pas les entreprises qui doivent venir nous proposer, c'est nous et les communes qui devons donc nous exprimer en disant « voilà ce qu'on veut comme solution, pour répondre à nos besoins, il nous faut ça ». À elles de s'organiser, de faire des partenariats pour y arriver.
Merci. On vient de parler d'entreprise. Juste avant, on parlait de formation. J'ai l'impression que vous donnez la parole à Karina, qui effectivement, avec le côté et académique, et on sait HEC travailler beaucoup avec un hinterland d'entreprise. Il faut quoi ? Il faut alphabétiser les Wallons au numérique pour augmenter la maturité, puisque vous commenciez par ça.
Alors, je ne sais pas si alphabétiser est le terme vraiment idoine ou pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, j'aimerais revenir sur ce que
Véronica... peut-être.
Pardon ?
Il faut peut-être ensemencer la Wallonie
de
connaissances numériques.
Avoir des pratiques inspirantes, certainement, et revenir aussi sur ce que Bernard a dit. Il y a un paradoxe, en fait, au niveau de la Wallonie, c'est qu'on entend que les villes et les communes sont demandeuses d'accompagnement, demandeuses de formation, parce qu'elles ne sont pas forcément au courant, ou si elles sont au courant, elles n'ont pas forcément les compétences pour mettre en œuvre des projets qui permettraient de relever les défis et permettraient d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Et d'un autre côté, nous qui, à l'Institut, proposons des formations, et des formations donc de type managérial, évidemment. Et donc, il ne faut pas être informaticien spécialement pour venir suivre ces formations. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, ce sont des formations qui répondent à des besoins. Et on se base notamment sur une enquête qu'on fait annuellement. Donc, annuellement, on interroge les 262 communes wallonnes pour identifier ce qu'elles entendent, elles, par le concept de ville et territoire intelligente. Et surtout pour identifier quels sont les facteurs bloquants ou quels sont les facteurs qui pourraient les aider vers cette transition. Et le paradoxe se trouve sur le fait que certaines communes, mais en fait beaucoup de communes ne répondent pas, tout simplement parce qu'elles se disent on n'a pas le temps, ça ne nous concerne pas, et donc on se retrouve un petit peu en balance par rapport à ça. Donc on essaye, nous, de les sensibiliser et de dire que oui, ça vous concerne, que vous soyez une commune urbaine ou rurale. Donc il y a vraiment ça concerne tout le monde, parce que la transition concerne tout le monde. Et donc il faut aller vers ce genre d'accompagnement, mais on fait aussi des accompagnements de type gratuit, où on met en ligne sur notre site, donc smartcityinstitute.be, des guides pratiques Donc on a fait un premier guide pratique il y a 4 ans sur le concept, on démystifie, on désacralise vraiment le concept de ville intelligente. Bon, évidemment, c'est notre vision de la chose. Et où on donne vraiment phase par phase la façon dont on peut implémenter une stratégie pour une ville intelligente. Donc c'est pas la panacée, mais c'est certainement une vision et un chemin à suivre. On l'a dit, c'est pas un état en soi, une ville intelligente, c'est vraiment une transition. Et donc ici, moi, je profite en tout cas de cette cour pour me dire, voilà, il faut peut-être qu'on travaille aussi avec le ministre des pouvoirs locaux pour aider ces villes et les communes à peut-être, je ne sais pas, à recevoir un subside ou quoi, pour qu'elles puissent venir se former aussi chez nous, simplement pour qu'elles soient sensibilisées. Et on le voit, hein, donc Profonde Ville n'a pas d'informaticien et pourtant vous avez quand même réussi à répondre à des projets. C'est bien la preuve qu'il ne faut pas être un technicien dans l'âme, mais il faut une vision, il faut avoir une volonté.
Oui, mais en même temps, ils se sont fait accompagner du BEP, il faut un accompagnement.
Bien sûr, donc voilà. Et heureusement, les intercommunales, et on travaille beaucoup avec le BEP, mais il n'y a pas que le BEP, il y a aussi IDLUX aussi. Maintenant, les autres intercommunales montent aussi sur le terrain de la ville intelligente, et ça, c'est quelque chose de positif. Donc, pour mener, apporter des projets qui sont parfois inspirés, mais certainement en tout cas des spécificités locales, mais qui s'inspirent parfois aussi de pratiques extérieures. Et donc ça, on ne réinvente pas toujours le fil à couper le beurre, mais c'est intéressant de voir que ça peut se faire aussi chez nous, quoi.
Je vais arriver à toi, Bernard, puisqu'on parle de communes, mais on parle du ministre des Villes et Communes, et donc j'ai quand même un peu envie d'interpeller Véronica là-dessus. On a parlé de la commission où tu es, de ministre Boursu, avec l'aménagement du territoire, le numérique, mais les villes et communes, il y a un moment où il faudra bien en passer par là. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a de la mobilisation?
Merci beaucoup, parce que je voulais vraiment réagir par rapport à ça. Et je trouve que Karina met le doigt sur un vrai problème wallon et qui a été exacerbé par la crise du Covid. C'est l'importance, c'est pas toi, Quentin, qui est conseiller communal à la ville de Liège, qui me dira l'inverse, c'est l'importance des pouvoirs locaux dans la gestion. Et surtout,
en termes de première ligne, c'est...
Et je ne sais plus qui a dit à l'entame... je pense que c'est Isabelle qui a dit « Oui, là, on parle de grosses villes dans la charte. Nous, on n'en est pas à ce stade-là. » Et effectivement, la région Wallonne est un réseau de moyennes et petites villes et de villages. Et donc, c'est tout à fait spécifique. Et donc, c'est super important que chacun soit entendu jusqu'à son niveau de pouvoir décisionnel. Et c'est là que c'est problématique. Et Bernard, toi, tu es là et c'est génial, mais ils ont plein de... C'est vraiment génial de prendre ton temps et d'être ici. Encore une fois, ça ne m'étonne pas de toi. Mais là, il faut aller chercher des élus locaux qui vont dire « je prends le temps d'y réfléchir » ou « je prends le temps d'envoyer des employés de la ville, du personnel de la commune » pour s'occuper de la chose sur le fond. Ça veut dire pas coller une étiquette. Ça, c'est facile, hein, de faire vite un marché public et de dire « c'est super, nous, on est connectés, on est numérique ». Ça va vite, et ça, on peut mettre un agent communal facilement dessus, ça prend quelques heures. Arriver à réfléchir, à conseiller les élus locaux et à se dire vraiment comment est-ce que je fais évoluer ma commune dans ce réseau polycentrique wallon qui est interconnecté, parce qu'il n'y a pas une commune chez nous qui peut vivre seule. Ce ne sera pas Amsterdam. Je veux dire, à un moment, la décision, même, et je suis liégeoise. Donc, ça, c'est étonnant. Incroyable, mais vrai, même Liège. C'est une interconnexion. Et évidemment que notre côté smart, notre côté intelligent, il dépend du développement d'Herstal, il dépend du développement de Serein, voire de celui de Charleroi et du réseau des petites villes et villages qui l'entourent. Et donc, aller chercher et stimuler cette connaissance-là dans chacun des territoires. Et c'est là où je fais vraiment lien avec la politique des villes et le ministre en charge de la politique des villes, où on n'arrête pas de dire en Wallonie le changement de mentalité. Je fais un peu de pub pour moi-même, mais j'ai moi-même écrit une carte blanche là-dessus pour l'après-Covid, mais pas seule, hein, avec d'autres urbanistes que je côtoie depuis longtemps et qui réfléchissent beaucoup le territoire. À un moment, il faut se poser la question de ce changement de mentalité et de cette politique qui, pour moi, en Wallonie, est une politique des villes et pas une politique de la ville, parce que la structure du territoire wallon est très, très spécifique. La relation avec Bruxelles est spécifique, etc. Et aller développer ces connaissances-là, c'est pas évident. Et là, justement, on a des interlocuteurs géniaux, hein, que ce soit l'agence du numérique, le Smart Cities et une commune, pour dire comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que le principal, c'est pas d'arriver à créer justement des zones de rencontre, des zones de formation, entre guillemets, j'aime pas, c'est pas one way, hein, c'est pas du top-down comme ça, c'est pas la formation, c'est pas la région wallonne qui arrive et qui dit comment il faut faire. C'est comment est-ce qu'on stimule les communes pour leur dire, quand vous allez remplir un marché public d'un opérateur numérique, vous allez y mettre vos valeurs. Et vous allez peut-être dire qu'il y a une partie de la commune qui ne doit pas être équipée de réseau. Parce que, territorialement parlant, qu'il y ait une zone blanche, pourquoi pas ? Ça peut être aussi une valeur. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de se déconnecter. Et ça peut être, à terme, une grande valeur pour la commune en tant que telle. Hein, je veux dire une valeur sociale, mais voire une valeur économique et touristique, hein, vraiment. Et donc, arriver à réfléchir à ça. Et ça, il faut mettre des moyens derrière ça. Et il faut que le débat ait lieu. Pour l'instant, ça c'est mon point de vue, très personnel, mais le débat sur le fond, il est un peu maigre.
Bon. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de possibilités de faire mieux. Un petit crochet près de Madame Roy, et puis Bernard, je viendrai vers toi pour, ok, les pouvoirs locaux.
Moi, juste pour dire, franchement, moi, j'ai espoir que du Covid, en fait, on voit quand même des choses positives ressortir. En tout cas, nous, on se rend compte qu'on est enfin conscientisé à tout niveau quand même de l'intérêt de la Smart City parce que ça adresse la mobilité, l'énergie, le tourisme, la participation citoyenne, le commerce local, l'e-santé, etc. Et via la stratégie numérique wallonne, Digital Wallonia, ben, tout ce qu'on a dit est lié, soutenu, donc c'est positif. Via l'appel à projet, c'était une première, justement, on avait réussi à ce que soit lancé conjointement par un ministre du numérique et par un ministre des pouvoirs locaux. Donc c'était une première. Je crois que ça sera amplifié, qu'il y aura d'autres choses qui seront lancées conjointement et j'espère par l'ensemble du gouvernement wallon pour tous les projets au niveau smart. Je crois réellement qu'on est un changement sociétal et que ça doit continuer à être réclamé. On a davantage de mandataires qui réclament, davantage de citoyens, davantage d'entreprises et je crois que ce mouvement, moi j'y crois réellement qu'on va aboutir à cette forme de renaissance entre tous les acteurs de notre société.
C'est positif.
Voilà.
Tant qu'à être positif, les pouvoirs locaux, vous êtes aux manettes, vous êtes au plus près du terrain, mais c'est-à-dire que c'est vous qui activez la pompe. Aujourd'hui, on se rend compte que ça a été évoqué partout. Il y a des besoins. Est-ce qu'il y a des moyens ? Comment est-ce que vous mettez ça en œuvre ?
Alors, je crois que c'est très important qu'on parte des besoins. Je vais paraphraser mon ami René Balkan, qui, il y a 20 ans, le disait à propos des cyber-écoles. La réponse est technique, mais donc, quelle est la question ? Et c'est exactement ça. Il faut...
Je me permets de le noter. Hein.
Oui, mais
franchement, je vais le réutiliser.
Voilà. Salut, Ronnie. Et comment est-ce que, justement, les communes, dans les besoins qu'elles ont, voilà, elles n'inventent pas, elles ont des besoins, comment est-ce qu'elles peuvent réfléchir à l'apport de nouvelles solutions, peut-être intelligentes, effectivement, pour mieux y répondre ou pour simplement y répondre. Je parlais des camions sentinelles avec la couverture, mais on peut aussi le faire avec des capteurs qui captent la pollution atmosphérique, hein, par exemple. Donc, on peut sortir de la question purement d'infrastructure. Moi, j'ai deux pistes de solutions qui me semblent vraiment, vraiment très pragmatiques et importantes. La première, on l'a déjà évoquée, c'est mettre des pouvoirs en commun. On connaît en Belgique, en Wallonie, la tradition pour l'autonomie communale. Autonomie, ça ne veut rien dire si on n'a pas les moyens. En fait, hein, donc on se perd si on est autonome sans avoir les moyens. Donc mettre des choses en commun.
Autonome à tout seul, il n'y a qu'un pas. Hein.
Oui, tout à fait. Oui. Et je pense que jusqu'ici, en tout cas, l'autonomie, ça veut dire tire ton plan. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose. Moi, on a parlé du BEP ou d'Idélux qui effectivement ont recruté des profils qui vont dans les communes et qui les aident à mettre le doigt sur ce qui peut être fait. Il faut vraiment amplifier ça, il faut le soutenir. C'est vraiment hyper important. Un autre élément très pragmatique, solution, c'est d'avoir les bons profils dans les communes. Il n'en faut pas 36, il en faut un. Et quand je disais, on n'a pas d'informaticiens, mais ce n'est pas forcément des profils d'informaticiens. C'est des gens qui ont un pied dans l'informatique et un pied dans le pas informatique. Si on met un informaticien au milieu du jeu, j'adore les informaticiens, moi je suis sociologue et j'ai appris à coder, voilà. Mais l'informaticien va peut-être avoir du mal à apprendre à l'informaticien à philosopher. Ça va être beaucoup plus facile à apprendre à un philosophe de coder. Et à partir de ça, on a des gens qui peuvent à la fois réfléchir sur la pertinence d'un besoin et à la meilleure manière et aux enjeux et à tout ce qu'il y a derrière, une solution qui peut y répondre. Donc ça coûte pas très cher, en fait, quelque part, de créer des filières qui vont permettre de trouver ce genre de profil. Et je sais qu'il y en a, notamment à l'Université de Namur, il y a un certificat post-universitaire en gestion de projets informatiques ou des choses comme ça. Mais ça permet vraiment à des gens qui ne sont pas dans la technique de mettre un pied dans la technique et de mieux comprendre, et donc quelque part d'avoir une vision beaucoup plus large des deux mondes, on va dire. Ça, c'est vraiment super important.
Je te remercie. Il reste un quart d'heure.
Jusqu'en temps, je voulais... Oui. Parce que lors d'un débat sur le numérique auquel j'ai assisté, c'était justement un philosophe qui avait, je trouve, la parole la plus importante. Enfin, où il disait, tous ces moyens technologiques sont l'occasion de nous réinventer. Et si on ne passe pas par la réinvention de fond, par les questions de fond...
Tout le monde hoche la tête.
On va louper le coche.
Je disais, tout le monde hoche la tête à ce que tu viens de dire, à ce que tu répétais, ce philosophe. Ça veut dire que je pense que c'est exactement dans la cible, c'est l'occasion de se réinventer. Vous en parliez tout à l'heure avec le Covid. Pour le dernier quart d'heure, et avant d'aborder le futur, peut-être Richard et Véronica, quelque chose qui est quand même très fortement mis en avant dans le projet de charte, c'est la question des valeurs. C'est peut-être un peu moins terre à terre, mais les valeurs, on a toujours tendance à dire que c'est ce qui fonde l'action. Alors après, on peut mettre de la technique, de la logistique, de la formation, de l'économique ou de l'action publique. Mais Richard, peut-être, et puis Véronica, quelques réflexions sur les valeurs qui sont vraiment, je pense, une plus-value extrêmement importante de ce projet de charte.
Merci. Peut-être d'abord, je vais dire que... des grandes villes comme Amsterdam ne sont pas toujours en avance. Il y a des domaines où les petits villages sont peut-être en avance sur les grandes villes. Par exemple, dans le domaine des smart grids, réseaux d'électrique intelligents, il y en a beaucoup dans des régions isolées, sur des îles, justement parce qu'ils ne sont pas très bien connectés sur le réseau national, parce qu'ils produisent déjà beaucoup d'électricité verte et parce qu'ils ont intérêt à le stocker et l'utiliser intelligemment. Et je pense aussi que l'implication des utilisateurs est beaucoup plus grande là que dans des smart grids dans les villes. Dans le domaine des coopératives pour des voitures électriques, on trouve aussi des exemples intéressants dans les petits villages, justement parce que les transports en public sont peut-être pas suffisants, ou parce que les gens en ont marre de devoir avoir deux voitures dans leur ménage, et la voiture partagée leur permet d'avoir qu'une. Alors oui, il y a un rôle important aussi pour les petites communes. Elles peuvent être des exemples inspirants aussi. Il leur faut des connaissances et des compétences. Il faut qu'il y ait un investissement là-dedans, parce que, comme Isabelle l'a dit, il faut être capable en tant que commune de mettre les balises, de définir qu'est-ce qu'on veut à travers la technologie, les valeurs qu'on veut protéger ou promouvoir avant de signer les contrats avec les entreprises. Les ingénieurs dans les entreprises, ils manquent souvent cette sensibilité. Ils ne savent pas ce que veulent les hommes et les femmes politiques, ils ne comprennent pas ce qui peut provoquer des débats dans la population. Il faut qu'il y ait assez de fonctionnaires et des élus qui comprennent ce qui est en jeu. Et je suis très content que Bernard disait qu'il faut des philosophes et des sociologues aussi, parce que oui, il en faut. Il faut qu'il y ait des gens qui ont l'imagination pour anticiper ce qu'une nouvelle technologie peut avoir comme effet. Et ce n'est pas toujours les effets qu'on désire, qu'on prévoit. Il y a toujours des effets inattendus, non voulus, et il est possible d'anticiper dans une certaine mesure ces effets. Il faut le faire. Pour ça, il faut des philosophes. Et je trouve personnellement que le débat qu'on a eu en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas, sur les apps anti-Covid est très, très intéressant, parce que là, il y a vraiment toutes sortes de disciplines académiques qui ont été impliquées, pas seulement les techniciens, aussi les philosophes, les juristes, les sociologues, et ça, je pense, ça a aidé beaucoup à améliorer ces apps qui sont en cours d'être introduites maintenant.
Dans la population. Ok. Voilà. Véronica.
Moi, j'ai été vraiment charmée. Il y a trois gros points dans la charte. Et c'est pas beaucoup, quoi, trois points. Et un des trois, c'est la technologie au service des valeurs sociales et des valeurs vertes. C'est pas rien, quoi. Un tiers du texte concerne des valeurs et des valeurs écologiques. Et donc, j'aime bien cette idée, évidemment, de ne pas opposer la valeur de société et notamment la valeur écologique avec le développement numérique. Il n'y a aucune opposition. Et la charte dépeint très bien l'enjeu en disant, oui, il n'y a justement pas d'opposition, mais il faut choisir les valeurs. Et notamment, voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis vraiment passionnée, c'est mon métier, de l'urbanisme, enfin, de l'architecture à la base, de l'urbanisme et de l'espace public en particulier, parce que c'est les biens communs, c'est notre bien commun à tous. Et là, le pouvoir public a une main énorme sur l'espace public, évidemment. Et il est mis texto dans la charte, c'est créer des espaces publics. Je relisais parce que je l'avais, mais vivant, où on peut circuler librement et où on peut être en mouvement. Ça, c'est une vraie valeur. À côté de ça, c'est très, très éloigné du repérage facial et de l'identification dans l'espace public, hein, qui entrave la liberté de mouvement. Et c'est là où tu as raison de poser la question, Quentin, et de revenir là-dessus. La valeur est énorme. Et or, le numérique, le smart, la technologie peut aider à avoir des espaces publics accessibles, à pouvoir être en mouvement plus facilement, à récolter les données anonymisées de gens qui ont plus envie de bouger, qui vont, enfin, je vais pas penser à des tas d'applis, par exemple, on voit les gens courir, les gens à vélo, donc on connaît mieux par où ils passent, on peut aussi améliorer ces espaces-là, donc la technologie peut aider à ça, mais elle peut aider à dire, je veux pouvoir circuler librement, je peux pouvoir bouger, je peux pouvoir sans être en sécurité, mais sans l'aspect sécuritaire, contrôle et vigilant, et sur-sécuritaire. Et donc ça, cette valeur-là, pour moi, c'est ça qui va complètement conditionner tous les choix. Et on tombe vite dans faute de moyens, faute de philosophes, à se dire, hein, qu'est-ce qu'on fait pour l'espace public, quoi ? Faut l'entretenir, donc vite, c'est quoi l'appli ? Et donc, un marché public voilà, un peu vite rédigé. Et je voulais insister là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment pour moi un déficit wallon et malheureusement pas qu'au niveau smart. C'est le fait d'arriver à rédiger un cahier des charges qui mène aux valeurs. Et quand on est une petite commune, c'est pas évident parce qu'il faut du personnel, il faut les cahiers des charges. Vous savez comme moi que c'est un dédale juridique dont on ne se sort pas facilement quand il est mauvais, le cahier des charges. Et donc d'arriver à dire « je promeus mes valeurs, je peux » y arriver parce que j'ai reçu une aide méthodologique, parce que des ambassadeurs ou des gens qui sont plus à même de traiter ces problèmes-là sont venus aider les communes, sont venus aider le personnel pour arriver à mettre des valeurs dans ces cahiers des charges. J'ai trop vu de communes qui baissaient les bras, et je peux les comprendre, j'ai travaillé vraiment avec du personnel communal dans beaucoup de communes qui baissent les bras et qui disent « c'est pas possible, j'ai pas le temps ». je ne saurais pas faire ça, et puis tu me parles chinois, et que quelqu'un d'autre s'en occupe, et puis quand même, après ça va finir en procès. Donc on fait simple, et puis c'est tout, quoi. Et ça, il ne faut pas céder à ça. C'est le moment de se redéfinir. Comme tu, le post-Covid me semble une belle occasion.
Une petite réaction sur les bonnes valeurs, et puis je vais proposer à Richard de clôturer.
Enfin, je voulais juste dire, mais vous aurez compris, en fait, on en revient aux valeurs humaines d'une civilisation. Et quand on parle de reconnaissance faciale, vous savez qu'en Asie, leur culture fait qu'ils acceptent tout à fait qu'on prenne leurs données, qu'ils soient tracés. Et donc, c'est lié tout simplement à nos valeurs humaine. Ce qu'on débat ici, c'est est-ce que on ne doit pas tout simplement défendre l'identité européenne ? Et s'il y a besoin de faire cette charte européenne en partant des exemples qui ont été cités, c'est parce que toutes ces grandes villes rétro-pédalent. Je vais m'expliquer. Barcelone, il y a quelques années, pourtant Barcelone est toujours citée en exemple au niveau mondial, et c'est là où il y a le congrès mondial des Smart Cities annuel, mais Barcelone, il y a quelques années, a tout simplement passé un contrat avec Cisco pour lui confier le développement entier quasiment de la Catalogne au niveau Smart City, puis s'est rendu compte que c'était une grosse erreur revient en arrière. La plupart des grandes villes font ça. Et donc, restons positifs. Nous, on n'a pas commis cette erreur-là, parce qu'on a toujours gardé en tête, quand même, quelque part, nos valeurs humaines européennes.
Moi, je voulais revenir sur un élément. On a beaucoup parlé des pouvoirs publics, pouvoirs locaux. Moi, quand je regarde ce qui fait bouger mon bourgmestre, je suis pas bourgmestre, on est en majorité avec tout le monde, hein, donc il y a le MR, le PS et le CDH en majorité chez nous avec Ecolo. Mais qu'est-ce qui fait bouger le politique ? Ben, c'est la pression des gens. Et donc, les valeurs d'un pouvoir, d'un mandataire, quel que soit son niveau, quelle que soit sa couleur, ben, c'est le risque politique qu'il prend. Et donc, c'est la pression aussi que la société civile, le citoyen, lui met sous le nez. Hein. Et donc, si c'est pas un enjeu, en gros, si c'est pas un enjeu pour les gens, ce sera pas un enjeu pour le bourgmestre et pour le collège. Et donc, ça, c'est super important aussi, parce que, bah, effectivement, je peux avoir mes propres valeurs et celles que tu expliquais, etc., par rapport au cahier des charges, etc. Mais qu'est-ce qui va faire la différence à un moment en disant « Mais ça, c'est super important, on doit prendre le temps de le mettre dans le cahier des charges, même si ça coûte un peu plus cher. Hein. » Pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller chercher nos fournitures sur Amazon et qu'on va aller les chercher ailleurs, même si ça coûte un petit peu plus cher ? Eh bien, c'est le risque politique que les mandataires prennent et donc la pression de la population. Et donc là, je veux aussi conscientiser les pouvoirs publics. C'est pas juste une entité comme ça. On représente la population, on représente ses valeurs, et c'est aussi à la population et à chaque citoyen à bien éduquer ses enfants dans ces valeurs-là et à faire en sorte que la société aille dans le bon sens. Nous, on ne pourra pas le faire tout seul. On peut effectivement participer à ce mouvement, y compris de conscientisation, mais ça va dans les deux sens.
Merci Bernard de cette conclusion pleine d'espoir et surtout qui nous projette vers le futur. Alors c'est la question qui moi m'interroge maintenant, Richard. Entre guillemets, cette charte, c'était un grand exercice qui est un exercice de style et qui a abouti. Et quel est le futur ? Qu'est-ce que vous espérez avec la Green European Foundation d'en faire ?
On est toujours, comme j'ai dit, on est toujours en train de l'actualiser. Chaque débat, comme ce débat, me donne de nouvelles idées pour améliorer notre charte. Et il est fait pour inspirer les élus locaux, les militants locaux qui s'intéressent à ce genre de questions ou qui n'y s'y intéressent peut-être pas, mais qui sont confrontés avec et veulent développer des positions cohérentes et bien fondées. En ce moment, avec la Fondation Verte Européenne, on est en train de répandre le contenu de la charte dans plusieurs pays européens. Peut-être on va faire encore plus de traductions et on est prêt de la discuter avec tout le monde, aussi en dehors de la famille verte. Et on va essayer aussi d'avoir une position commune du Parti vert européen. Alors, toutes les parties, tous les partis verts européens rassemblés sur le thème des villes intelligentes. C'est important d'avoir cette discussion sur le niveau européen aussi, parce que beaucoup des mesures qui pourraient guider les villes intelligentes dans le bon sens doivent venir de l'Union européenne. Et il y a des plans pour, par exemple, faire des règles pour l'intelligence artificielle. Ça pourrait avoir un grand effet sur la manière dont les municipalités utilisent les algorithmes, par exemple. Ce serait très bien s'il y a plus de guides ou de lois qui guident les municipalités sur ce domaine. Alors, oui, comme ça, on essaie de connecter le niveau local et le niveau européen dans les prochains mois.
Ok, donc il y a devant nous une vraie phase d'essaimage encore autour de cette charte. Et j'en profite aussi pour te remercier, le français n'est pas ta langue maternelle, mais quelle fameuse prestation, ça permet en tout cas à notre public dans la salle, sur Internet, de pouvoir vraiment comprendre. Je vous remercie tous pour la qualité, la tenue et le contenu des débats. Je pense que toutes les personnes qui entendent ou qui vont entendre, c'est l'intérêt aussi d'une captation, c'est qu'on va pouvoir en ressortir grandi et nourri, et c'est vraiment tout l'intérêt.
Vous étiez le vendredi 28 août 2020 à la salle Francisco Ferrer de la Cité Miroir, et les participants à ce débat étaient Véronica Crevasco, Richard Wouters, Bernard Dubuisson, Karina Basile, Isabelle Rawar, et le débat était animé par Quentin Lebussy.